pas tous, lorsque j'étais encore la guerre en région, comme on dit aujourd'hui, je vous aurais prié de bien vouloir excuser ce quart d'heure périgourdin, et en fait, ici, ce serait un quart d'heure parisien, donc nous commençons un petit peu en retard, et j'en suis désolé. Cette journée d'hier consacrée à un thème particulièrement important, qui est celui des figures du lettré et des technologies numériques, a permis déjà d'aborder de manière savante, je dirais, ce thème. Aujourd'hui, cette séance publique nous permettra de discuter ensemble de la manière dont le numérique permettrait, par hypothèse, d'articuler culture savante et savoir profane, dans le cadre d'un partenariat noué entre la Bibliothèque publique d'information et le groupement de recherche internationale Les Mondes Lettrés, animé par Christian Jacob. Alors, je laisse sans attendre la parole à Bernard Stiegler, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales et actuellement directeur du département du développement culturel au Centre Georges Pompidou et, à ce titre, responsable de l'Institut de recherche et d'innovation.
Merci Thierry, bonjour à tous, merci beaucoup à l'INHA de nous accueillir. Je retrouve ici de nombreux amis, à vrai dire. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu participer aux travaux d'hier et de ce matin parce que les activités au centre sont intenses. C'était l'occasion, quand Thierry Grenier m'a fait cette proposition, je me suis dit que c'était une formidable occasion de revenir un petit peu sur nos pas avec un certain nombre de personnes, en premier lieu Christian Jacob, puisque avec Christian Jacob, nous avions travaillé dès l'époque de Mémoire du Futur, il y a une vingtaine d'années, avec la BPI, sur cette problématique de ce qu'on n'appelait pas encore le numérique, mais l'informatisation de la société, et beaucoup d'autres amis qui sont présents, en particulier Bruno Bachimon, qui est un collègue et un confrère excellentissime. Je suis toujours très ravi de pouvoir le revoir et discuter avec lui. Le lettré, qu'est-ce que c'est? Si je puis dire à la lettre, le lettré, c'est celui qui est littéralement appareillé. Appareillé, c'est-à-dire doté d'un appareil, on appellera ça un instrument spirituel, qui est une technique, une mnémotechnique, qui lui permet de penser. Le numérique, c'est désormais devenu un milieu symbolique, tout autant que technologique, qui est maintenant commun au monde entier, par le biais des réseaux qui relieront de plus en plus et en permanence les âmes, que sont les lettrés, tout autant que les non-lettrés, qui, pour être non-lettrés, n'en sont pas pour autant des illettrés. Et je pense qu'une des grandes questions qui se posent dans ce sujet, c'est qu'est-ce que c'est qu'un non-lettré qui n'est pas un illettré? Qu'est-ce qui relie le lettré au milieu numérique contemporain? C'est une instrumentation spirituelle, au sens où Mallarmé parlait du livre comme d'un instrument spirituel. Le contexte dans lequel se posent ces questions, cette question, le rapport entre le lettré et le numérique, c'est une généralisation du milieu numérique et surtout, c'est depuis quelques années maintenant, l'apparition de technologies d'indexation, d'annotation, de coopération, c'est-à-dire de travail individuel et collectif du symbolique. Ce que j'appellerai dans un petit moment, je développerai ce point, des technologies de trans-individuation. Depuis maintenant une dizaine d'années, je travaille beaucoup avec les concepts de Gilbert Simondon. Et je pose que ce qu'on appelle le social engineering, par exemple, ou toutes les technologies du Web 2 ou de ce qui commence à s'appeler le Web 3, sont des technologies de trans-individuation, c'est-à-dire de formation de processus d'individuation psychique et collective d'un nouveau type. J'expliciterai aussi tout à l'heure ce que j'appelle un processus d'individuation psychique et collective. Cela étant posé, ces technologies numériques sont aussi ce que l'on appelle, en particulier depuis Gilles Deleuze, des technologies de contrôle. Dès lors, quel type de processus d'individuation psychique et collective aura été le monde lettré au départ? En quoi est-ce qu'il aura été constitué ou pas par une technicité qui est précisément la lettre? D'autre part, que fait la numérisation à la lettre et au-delà de la lettre? Permet-elle une relance de l'activité lettrée dans de nouvelles conditions? Et comme un nouveau processus d'individuation psychocollective, comme un processus producteur de nouvelles formes de transindividuation? Voilà ce que je voudrais examiner ici, et cela suppose des précisions évidemment terminologiques que je vais vous proposer après une considération générale préalable. Depuis l'origine même de la philosophie, la question des technologies de l'esprit, qui se repose donc de nos jours d'une manière absolument originale, nouvelle et cruciale, aussi bien sur le plan spirituel, métaphysique, épistémologique, politique, que sur le plan économique et industriel, et voilà où il y a quelque chose de nouveau. Depuis donc l'origine de la philosophie, cette question de la technologie de l'esprit, ou disons de la mnémotechnique, a été posée par Platon. C'est le début même de la philosophie, cette question. Cette question, Platon l'appelle la question de l'hypomnésis, c'est-à-dire de la mémoire artificielle. C'est-à-dire aussi de l'extériorisation du savoir. C'est dans ce fameux dialogue Phèdre où Socrate reproche à Phèdre d'utiliser un hypomnématon, c'est-à-dire un support artificiel de mémoire qui lui a été donné par un sophiste. Et il lui dit, c'est ce qui va t'empêcher de penser par toi-même, c'est-à-dire de trans-individuer. Cette extériorisation du savoir à la lettre a donné lieu, de la part de ce que l'on a appelé ensuite la métaphysique platonicienne, à tout un processus de refoulement et de dénégation affectant la technique en général. Je veux dire par là que depuis Platon, la philosophie a tendu à minorer, voire à complètement occulter le rôle des techniques de l'esprit. Et plus généralement, le rôle de la technique tout court. Et ce processus a occulté ce fait majeur, du même coup, que ces technologies de l'esprit, sans lesquelles il n'y a pas, à mon avis, d'esprit, sont toujours aussi des technologies de ce qui peut apparaître comme étant le contraire même de l'esprit. C'est cette à la fois, ce qui fait qu'à la fois une technique de l'esprit peut être une technique contre l'esprit, qui détruit l'esprit, qui a été déniée, occultée, par la métaphysique de Platon et derrière lui par pratiquement toute la métaphysique, pas absolument toute la métaphysique, et qui a été déniée par une logique oppositionnelle, consistant par exemple à opposer à l'hypomnèse, c'est-à-dire au support artificiel de mémoire, ce que Platon appelle l'anamnèse, et qui est en fait le nom grec de ce que j'appelle moi la transindividuation. Je crois que dépasser cette situation, ce qui reste encore un vaste chantier, non seulement philosophique, mais institutionnel, politique, économique, technologique évidemment, suppose de raisonner en termes non pas oppositionnels, mais compositionnels. Ce que je vais donc dire, c'est que l'esprit ne peut se développer qu'à la condition de composer avec son contraire, non seulement avec son autre, mais avec son contraire. Le problème actuel du numérique, c'est comment composer avec ce qui, dans le numérique, est contraire à la vie de l'esprit, pour que l'esprit puisse exister, se développer numériquement. Il se produit, dès l'origine, l'état de fait que je viens de décrire, c'est-à-dire la spiritualisation et son contraire, se produit dès l'origine dans les systèmes de numération, qui sont d'emblée à la fois hiératiques, c'est-à-dire représentants du sacré, du hieros, et utilitaires. Et ils se rejouent de manière spéculative et spectaculaire, si je puis dire, dans la Grèce ancienne, précisément comme le débat entre les sophistes et les philosophes autour de la technicité. Tout le corpus de Platon est en fait une déclinaison de cette question. Il se rejoue ensuite, quelques siècles plus tard, à l'époque des stoïciens, des épicuriens, puis du christianisme primitif, et cette fois-ci explicitement comme la question des hypomnémata, c'est-à-dire des supports de mémoire artificielle, en tant qu'il supporte l'activité contemplative et libre de ce que chez les Grecs on va appeler la scholae et chez les Romains l'osium. À ce moment-là, et je pense évidemment à un texte dont je reparlerai tout à l'heure de Michel Foucault qui s'appelle l'écriture de soi, Sénèque par exemple et de nombreux autres explicitent un rapport à l'hypomnématon, tiennent un discours sur l'hypomnématon comme un objet de pratique qui est la condition de l'accès à l'osium. Puis ce rapport se transforme au fil des siècles, et en particulier avec la mise en place des techniques de compute, de calcul, liées au fait que l'écriture commence à se répandre dans la société, y compris dans la société qu'on appellera bourgeoise ou roturière. Avec l'apparition de l'imprimerie, et donc de l'humanisme, il conduit au luthérianisme qui va donner le calvinisme et dont Max Weber a très bien montré comment il pose à nouveau frais comment il repose sur les techniques de comptabilité, puisque les hypomnémata, à ce moment-là, deviennent des supports de comptabilité. Et Max Weber a montré, dans tout ce qu'il décrit comme processus de désenchantement et de rationalisation de la société, c'est-à-dire naissance de l'esprit du capitalisme, comment ce déploiement suppose la diffusion de ces techniques de manière extrêmement large dans la société. Enfin, à partir du XIXe siècle, il donne lieu à un nouveau type de société que l'on appelle la société industrielle. Cette société industrielle, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure qu'elle est un stade de ce que j'appelle, après Sylvain Auroux, mais en élargissant son concept, le processus de grammatisation. Je préciserai tout à l'heure ce que j'entends par là. Dans tous les cas, il faut distinguer la mise en œuvre des hypomnémata au service d'une efficience sans causalité finale, c'est-à-dire de ce que Aristote appelait la cause efficiente sans qu'elle vise une cause finale explicitement, et qui tend à s'autonomiser de la causalité finale, qui en l'occurrence à cette époque-là s'appelle Dieu, parce que la cause finale ultime c'est Dieu. Et ça conduit à ce que donc Weber appellera le désenchantement du monde et le processus de rationalisation. Il faut distinguer cela de la mise en œuvre des hypomnémata au service de l'osium, c'est-à-dire au service de ce que Kant appellera le règne des fins. Et le règne des fins constituant les horizons derniers de la raison, en tant que la raison est critique et est susceptible de produire des concepts et des idées, c'est-à-dire une vie de l'esprit. Ce processus consiste, le processus de désenchantement que décrit Max Weber, consiste non seulement à, excusez-moi ce néologisme, immanentiser, c'est-à-dire rendre immanent ce qui était transcendant et faire que tout devienne calculable, profane et utilitaire, mais à nier qu'au sein même de l'immanence, il soit possible de dégager une sphère qui ne serait pas réductible au calcul. C'est-à-dire une sphère qui correspondrait à ces objets du savoir que depuis Platon, on appelle les idéalités. Un savoir dont Husserl pose cependant à la fin des années 30, en 1937, que d'une part il est interminable et qu'il renvoie donc à des idéalités, à des objets qui n'existent pas, par exemple le point géométrique qui n'existe pas, mais toutes les idéalités au sens où Jean Toussaint de Santy a parlé des idéalités mathématiques, ce sont des idéalités qui n'existent pas et qui renvoient donc toujours en dernier recours à un incalculable. Ce savoir, Husserl nous dira en 1937 dans la région de la géométrie que néanmoins il n'est constitué que par un rapport à l'écriture comme condition du raisonnement géométrique. Tel est le cadre dans lequel se pose à moi la question de savoir s'il y a un monde lettré numérique possible. Je dis bien un monde lettré et pas simplement un lettré. Si le lettré peut profiter des hypomnémata numériques plutôt que d'en pâtir. Et d'autre part, si donc un monde lettré peut se constituer comme monde numérique, pas simplement un lettré devenant numérique, mais un monde lettré se constituant comme monde numérique dans un monde numérique. La réponse pour moi est extrêmement claire et sans aucune hésitation, et elle est positive. Elle est oui. Mais j'y ajoute « mais ». La réponse est oui, dans la mesure où ce que l'on appelle le numérique, les technologies numériques, ce sont des formes d'hypomnémata, d'un nouveau genre, qui reste d'ailleurs alpha-numérique, et donc qui procède intégralement de son origine alphabétique et lettrée, et qui sont la poursuite et l'extension machinique, appareillée et automatisée, informatisée, de ce qui s'est mis en place avec l'hypomnèse alphabétique, qui constitue le lettré en tant que tel, si je puis dire, à la lettre. Ici, je précise, et pour poursuivre une discussion que j'avais eue avec Christian Jacob, d'ailleurs, il y a deux ans, je crois, ou trois ans, que le lettré, ce qui s'appelle dans ce programme, je crois, les mondes lettrés, le lettré ou le monde lettré, a évidemment des versions non à la lettre, si je peux dire, du lettré. Des versions non alphabétiques, dans d'autres mondes lettrés. Si l'on prend le monde lettré, non pas à la lettre, mais dans son esprit. Et on retourne sur la question du rapport entre l'esprit et la lettre. En Asie, en Amérique latine et dans beaucoup d'autres pays, là où des systèmes de notation, de numération, d'écriture non alphabétique se sont développés, sont apparus des mondes lettrés, au sens où on entend par là, je crois, mais Christian me répondra peut-être tout à l'heure, des mondes à part de la société. Monde d'écrivains, on dirait aujourd'hui, on aurait dit il y a fort longtemps monde de scribes, monde de clercs, clergé, clercs laïcs, mais aussi notaires, savants, universitaires, qui sont toujours, dans toute l'histoire des civilisations, dans une relation distante et complexe avec les mondes profanes. Aujourd'hui, cette question se pose à nouveau frais, dans la mesure où la numérisation est une forme inédite d'hypomnèse, donc, et la question est de savoir si dans cette hypomnèse, une anamnèse est encore possible, au sens où Platon dit donc que l'activité de l'esprit à proprement parler, ça n'est pas l'hypomnèse, c'est l'anamnèse. Dans son débat avec les sophistes, Platon pose que ceux-ci mettent en œuvre ce qu'il appelle la logographie hypomnésique, c'est-à-dire l'écriture dont il soutient qu'elle se substitue à la pensée comme une technique de manipulation du langage. Et l'anamnèse est ce que Platon vient opposer à cette hypomnèse en disant que seule l'anamnèse constitue une authentique pensée, une scolaie, un monde lettré, un monde philosophique dont il pose qu'il est dialectique. J'ai essayé de montrer, je préciserai aussi tout à l'heure ce que j'entends par dialectique. J'ai essayé de montrer depuis longtemps maintenant, c'est la base même de tout mon travail, pourquoi il n'y a pas d'anamnèse sans hypomnèse. Et je rappellerai en un mot que pour moi, l'hypomnèse est un cas particulier de l'extériorisation technique. J'ai essayé de montrer, en m'appuyant sur toutes sortes de sources, mais en particulier Husserl et Leroy Gourand, en passant par Jacques Goudy et Jacques Derrida, que la vie comme existence, l'existence humaine, est toujours instrumentée et qu'elle consiste essentiellement donc dans son extériorisation, y compris comme expression. Et que cette extériorisation et cette expression sont toujours, de part en part, techniquement conditionnées. J'ai d'autre part souligné que dans l'extériorisation technique, qui commence il y a 3 millions ou 4 millions d'années, il y a un moment qui se constitue spécifiquement et qui est le moment de l'extériorisation hypomnésique à proprement parler, c'est-à-dire le moment où la technique devient explicitement support de mémoire, ce que j'appelle le début du processus de grammatisation. Expression que je reprends donc à Sylvain Auroux, et c'est la grammatisation qui rend possible à la fois la sophistique et la philosophie. Je me suis récemment appuyé sur les travaux de Michel Foucault, qui d'une façon générale, à travers ce qu'il a appelé les technologies du pouvoir, et plus précisément dans ses tout derniers travaux, l'écriture de soi, a montré que l'activité de l'osium, c'est-à-dire du lettré, était toujours outillé par une technique de soi, et en l'occurrence une mnémotechnique de soi, dont je crois d'ailleurs que chez le chaman, c'est plutôt une technique du corps, car le chaman aussi a une technique spirituelle du soi, mais c'est une technique du corps. Dans le cas des hypomnésas, ce sont vraiment des techniques de l'esprit. Ceci fait l'objet d'une histoire complexe, dont je soutiens qu'elle doit être pensée à travers le concept de ce que j'appelle, depuis 5-6 ans, une organologie générale. Une organologie générale de la façon dont les rapports entre les organes humains, aussi bien les organes de perception, l'œil et l'ouïe par exemple, les organes vitaux, les organes de préhension, que les organes proprement cognitifs, et en particulier le système nerveux central, se trouvent transformés par la manière dont ils s'accouplent et forment ce que l'on pourrait appeler un couplage structurel entre, premièrement, le corps humain, donc, dans ses fonctions perceptives, cognitives, motrices et vitales. D'autre part, les corps artificiels que sont les techniques, les artefacts, les œuvres, les outils, les instruments, les hypomnémata. Et troisièmement, le niveau des organisations sociales, où se forment des organes sociaux, dont le monde lettré est un cas. Mais pas simplement un cas parmi d'autres. Le monde, c'est le monde qui, pendant des millénaires, a été l'organisateur, à proprement parler, de la relation entre ces trois niveaux organologiques. Pendant au moins 3000 ans, les mondes lettrés de scribes, 3000 et peut-être 5000 ans, les mondes lettrés de scribes, de philosophes, de savants, de législateurs, de clergés, ont été les organisateurs de cette relation. Or, au cours de cette histoire, qui date donc de l'origine de l'humanité, mais qui devient celle des hippopnémata après le néolithique, et surtout à partir des grands empires, et a fortiori à partir de la Grèce, puis de l'Empire romain, et enfin du christianisme, le statut et la nature des hippopnémata évoluent très sensiblement. Cela évolue très sensiblement dans le sens où j'en parlais tout à l'heure, et cela conduit à ce que Weber donc a décrit comme un processus de rationalisation où les hippopnémata sont au service de la calculabilité généralisée. Or, et c'est là où je voulais en venir, cette évolution conduit non seulement à une fusion, mais à proprement parler à une confusion entre d'un côté le monde lettré, ou qu'on appelle aussi le monde savant, ou encore le monde des clercs, le monde de l'osium d'un côté, et de l'autre côté le monde profane, qui est aussi roturier, utilitaire, et orienté vers la finalité économique de manière hégémonique. Cette confusion va rendre très difficile la pensée de ces questions. D'autant plus qu'elle vient se rajouter à une dénégation, celle dont je parlais tout à l'heure, qui a rendu impensable dans la tradition philosophique le rôle de la technique dans la constitution de l'anamnèse elle-même. Cet état de fait s'installe, il se prépare, je dirais, avec Descartes, avec le projet de mathesis universalis que Leibniz va reprendre à son compte en le transformant, mais surtout il se concrétise et il s'installe socialement et non plus simplement philosophiquement, et il se généralise avec la première révolution industrielle, et puis il s'intensifie avec la deuxième révolution industrielle, et il se systématise et devient le cœur même du système industriel à notre époque, dont on dit aujourd'hui qu'il est une troisième révolution industrielle, qui n'est d'ailleurs pas simplement numérique, mais aussi nanotechnologique, biotechnologique, etc. Ici, je voudrais dire trois choses. Premièrement, il y a, je le crois, pour penser ces questions, à maintenir une distinction entre le monde savant et le monde profane, entre le monde de l'osium, pour parler comme les Romains, et le monde du négocium. Il faut rappeler que ce qu'on appelle le négoce, au départ, est qualifié par les Romains comme ce qui n'est pas l'osium. Deuxièmement, il y a à réagencer ces deux mondes, en cessant de les opposer et en organisant leur composition. Troisièmement, il y a à mettre en œuvre une politique industrielle du développement des technologies de l'esprit qui réalise cet agencement sur le plan instrumental et par des activités de recherche industrielle concrétisant des technologies du type de ce que j'appelais tout à l'heure des technologies de trans-individuation. Voilà le propos que je voulais introduire, par lequel je voulais donner des considérations préalables que je vais maintenant développer par un certain nombre de définitions. Le lettré, en tant qu'il est à la lettre lettré, et je réserve ma discussion sur le lettré, je dirais, à la lettre, il y aurait toute une discussion à avoir sur les mondes lettrés asiatiques et autres que je ne connais pas suffisamment pour pouvoir en parler, mais le lettré, disons, occidental, pour aller vite, est le produit d'un stade de la grammatisation. Ce stade de la grammatisation, c'est celui qui conduit à produire ce qu'on appelle un gramme, c'est-à-dire une lettre, qui consiste dans une spatialisation du temps. Vous le savez, je pense, Husserl a fait une théorie très tardive, et juste avant de mourir, donc il n'a pas eu le temps de la développer, il ne l'a fait que l'ébaucher, une théorie du rôle de la lettre dans la constitution de l'idée géométrique, et du concept géométrique, du raisonnement géométrique. Or, Husserl, 35 ans plus tôt même, avait développé l'idée que toute activité de l'esprit est d'abord un flux temporel qui se déroule, et que ce flux temporel est un agencement de rétention primaire et de rétention secondaire, de ce qu'il appelle des rétentions primaires. Qu'est-ce que c'est qu'une rétention primaire ? Eh bien, le fait que je suis en train de parler en ce moment, vous êtes, en m'écoutant, en train de synthétiser ce que je dis, c'est-à-dire de rassembler des éléments épars, des mots, des verbes, des noms communs, des adjectifs, etc. Et cet agencement que vous faites, c'est une activité de rétention primaire. C'est-à-dire que vous agrégez ces choses ensemble pour produire un sens. Et depuis le début que je parle, vous essayez de comprendre où je veux en venir et quelle est l'unité de mon propos. Ça, c'est un phénomène de rétention primaire, dit Husserl. Et il dit, il faut distinguer cela de la rétention secondaire. La rétention secondaire, c'est la mémoire que vous pouvez avoir de choses que vous avez entendues dans le passé. Par exemple, vous avez entendu parler de Platon, de Husserl, du numérique, et c'est ce qui vous permet de comprendre ce que je dis, et donc d'agréger les rétentions primaires en y sélectionnant des sens, des significations que vous produisez en réalité. C'est pas moi qui les produis, c'est vous qui les produisez, en m'écoutant, en mobilisant les rétentions secondaires qui vous constituent en tant que vous savez des choses. Par exemple, en tant que lettré, ou en tant que non-lettré, non-illettré. Ce que je suis en train de produire en parlant en ce moment, c'est ce que vous sort la peine un objet temporel. C'est-à-dire que ça s'écoule dans le temps. Et si vous l'écoutez, c'est parce que vous-même êtes des êtres temporels, et le temps de ma parole devient le temps de votre conscience, puisque vous êtes attentif à ce que je suis en train de dire. Eh bien, Husserl dit dans l'origine de la géométrie que ce qui permet la constitution de la géométrie, c'est ce qui fait que le géomètre va pouvoir spatialiser le temps de ses rétentions primaires et de ses rétentions secondaires et du coup les contrôler. Et pouvoir revenir dessus, les recombiner et pouvoir faire des opérations, par exemple de ce que Bruno Bachimon appelle des règles de réécriture, mettre en œuvre des règles de réécriture. C'est ce qui va permettre la computation. Pour pouvoir faire des calculs sur des objets spirituels, il faut les transformer spatialement en symboles et pouvoir faire sur ces symboles des opérations. Le lettré est celui qui maîtrise la lettre. Celle-ci étant une façon de discrétiser un flux temporel de la parole pour le transformer en un espace discret de grammes sur lesquels il devient donc possible d'effectuer des opérations. Et ça, c'est l'instrumentalité spirituelle où se constituent une scholae et un osium. Le gramme, c'est ce qui permet d'appréhender synoptiquement, c'est-à-dire d'un coup d'œil, le syntagme qui ne se présentait lorsque la parole n'était que orale, que diachroniquement. Il ne pouvait pas se présenter synchroniquement. Et tout le travail de Jack Goody, avec ses fameux tableaux, c'est de montrer que le synoptique du tableau, et Foucault reprendra ça aussi dans Les mots et les choses, permet tout à coup de faire apparaître des opérations nouvelles. Des opérations de quoi ? De transindividuation, c'est-à-dire d'anamnèse et de dialectique. La grammatisation, c'est ce qui permet la transformation de la parole en langue, au sens où les linguistes vont parler d'une langue, et c'est ce qui permet aussi la transindividuation d'une moyenne synchronique du parler idiosyncrasique. Ce que je veux dire par là, c'est que Sylvain Auroux montre qu'à partir du moment où ce qu'il appelle les instruments linguistiques se développent, il est possible de constituer une langue qui va donner lieu à la grammaire de Port-Royal, c'est-à-dire de constituer un espace, qu'on va aussi appeler la logique de Port-Royal, où on va constituer des règles communes à un savoir de lettré qui repose sur ces objectivations à la lettre du savoir. Cependant, il y a des mnémotechniques bien avant la lettre. La lettre est une mnémotechnique qui consiste à analyser, c'est-à-dire à décomposer, puisque analysis veut d'abord dire décomposition, à spatialiser et du même coup à reproduire et à resynthétiser spatialement ce qui se présente d'abord dans une synthèse temporelle. Cette présentation analytique et spatiale du temps, c'est ce qui permet précisément à la pensée, qui est d'abord une synthèse, de se développer analytiquement. Et c'est uniquement dans cette mesure que, par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Kant pourra parler d'une analytique des concepts, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, à partir de là, d'établir un espace de la pensée, et pas simplement un temps de la pensée, qui va par exemple s'énoncer comme catégorie. Aujourd'hui, la grammatisation s'est développée dans toutes sortes d'autres domaines. Si on admet de dire que la grammatisation, c'est tout ce qui consiste à discrétiser des flux, à les rendre reproductibles et manipulables, alors il faut dire que la photographie, la phonographie, la cinématographie sont des époques de la grammatisation. Il faut dire que la machine-outil que Adam Smith en 1776 analyse comme étant ce qui permet de discrétiser et de recombiner et de commander des gestes de l'ouvrier est aussi un processus de grammatisation, mais cette fois-ci non plus du logos, et du nous, c'est-à-dire de l'intellect, mais bien du corps avec la machine-outil, ou bien de la perception avec les technologies audiovisuelles. Et avec la numérisation, la grammatisation atteint des stades nouveaux où ce sont les opérations elles-mêmes de la lecture qui vont commencer à être formalisées. Alors, je vous disais en commençant que l'osium suppose des hypomnémata, je citais Foucault et Platon, et je vous disais aussi que la logographie et la rhétorique des sophistes est vécue, et en tout cas définie par Socrate et Platon, comme ce qui est anti-spirituel ou anti-savant. Je crois que ce que veulent dire Socrate et Platon, et d'une façon plus générale les philosophes qui critiquent la technicisation du logos, c'est que ce logos technicisé produit des courts-circuits dans ce que j'appelle la transindividuation. Pour développer ce point, je dois maintenant vous dire ce que j'appelle précisément la transindividuation. L'individuation psychique et collective, c'est-à-dire le fait que nous nous individuons, en ce moment même nous nous individuons, puisque nous sommes en train d'essayer de penser ensemble. Moi, je m'individue en vous parlant, vous vous individuez en m'écoutant. S'individuer, ça veut dire se transformer. Ça veut dire apprendre des choses, devenir ce que l'on est, comme disaient les poètes grecs et Nietzsche. Cette individuation, Simondon dit, elle est toujours à la fois psychique et collective. Simondon dit, je ne peux m'individuer psychiquement que si je contribue à l'individuation collective. C'est ce qui se manifeste très clairement comme un désir dans le blog, hein, et dans toutes les technologies du Web 2, où on voit bien que je cherche à m'individuer psychiquement en faisant que d'autres s'individuent avec moi collectivement via un milieu numérique en l'occurrence. Pour que cette individuation psychique collective puisse se produire, il faut qu'il existe ce que je vais appeler maintenant des milieux symboliques. Et je vais prouver qu'un milieu symbolique, c'est un milieu que j'appelle associé. Un milieu associé, c'est un milieu tel que il relie dans la distance des êtres qui s'y distinguent tout en s'y reconnaissant, qui se trouvent constitués par ce milieu, à la fois individuellement, en tant qu'ils peuvent dire « je », et collectivement, en tant qu'ils peuvent dire « nous », dans ce milieu. C'est par exemple la langue. La langue est un milieu symbolique, ce qui veut dire, pour moi à la lettre, que par structure, il est un milieu associé tel qu'il permet la constitution et l'expression de singularité dans une interlocution. L'interlocution est la vie de la langue où un destinataire, c'est-à-dire celui qui écoute, ne peut entendre celui qui l'écoute et être ainsi destiné à la parole qu'il écoute et qu'il entend, que dans la mesure où il est susceptible de prendre la parole à son tour et de devenir un destinateur et un locuteur, de devenir celui qui parle et comme personne ne pourrait parler à sa place. C'est ce que Mikhail Bakhtin, par exemple, a appelé le dialogisme. Il n'est possible d'entendre une langue que pour autant qu'il est possible de la parler, et de la parler singulièrement, c'est-à-dire comme personne d'autre pourrait parler à ma place. Et dans le langage de Saussure, on dirait aussi diachroniquement. La langue est donc dialogique, et c'est ce que Saussure appelle le circuit de la parole. Or, ceux qui reçoivent et renvoient ainsi ce qu'ils reçoivent, participent tout aussi bien à la transformation de la langue elle-même, c'est-à-dire que en m'individuant et en essayant par mon individuation de faire que vous individuiez, je participe avec vous à l'individuation, pas simplement de vous et de moi, mais de la langue dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire du milieu symbolique. En parlant, les locuteurs produisent un processus d'individuation collective qui est aussi celle d'un milieu. Un milieu qui est en réalité toujours déjà technique. Cette interlocution, qui est la condition de la dialectique, au sens où Platon l'appelle l'anamnèse, la dialectique c'est le dialogue, hein, c'est ce que veut dire dialectique en grec. Hein, au départ, c'est le dialogue, y compris le dialogue de la pensée avec elle-même. Et c'est ça que Platon appelle l'anamnèse. Cette interlocution, comme processus de trans-individuation, puisque nous individuons ensemble, il se produit une trans-individuation qui produit des significations qui s'inscrivent dans la langue comme un milieu symbolique, c'est ce que Platon accuse les sophistes de court-circuiter. Lorsque Socrate dit à Phèdre « N'utilise pas les hypomnémata, elles t'empêchent de transindividuer », il veut dire « Tu transindividues selon les prescriptions et les clichés que les sophistes t'ont donné, parce que, évidemment, ils t'ont donné une technique qui est efficace, donc ils te donnent un pouvoir, mais ils te court-circuitent dans le processus de transindividuation, et du coup, ils te font perdre ton intelligence, ton logos, ta citoyenneté, etc. » Or, cette interlocution, c'est aussi ce que les médias de masse, qui se sont développés au début du XXe siècle, comme nouvelle forme de la grammatisation et de l'hypomnésis, et qui se sont mises à développer ce que j'appelle des milieux symboliques industriels, ont ont tendu eux-mêmes à court-circuiter, voire même à détruire, en court-circuitant les processus de transindividuation, en quoi consiste tout milieu symbolique en tant qu'il forme un milieu associé. Car ces médias de masse ont en effet produit un processus non pas d'association symbolique, mais de dissociation symbolique. Ils ont formé des milieux dissociés, où je peux être destinataire sans être destinateur, où je ne participe donc pas à l'individuation collective, c'est-à-dire à la transindividuation, où je suis court-circuité des milieux symboliques qui sont industriellement désorganisés, c'est-à-dire aussi désocialisés, désymbolisés, désublimés, déspiritualisés, soumis à ce processus de désenchantement que décrit Max Weber. Ce que je dis à propos des médias de masse est vrai des industries de service en général, en tant qu'elles ont tendu à imposer hégémoniquement des usages dissociants des techniques et des technologies par lesquelles une société produit de l'association, parce qu'une industrie de service, c'est ce qui progressivement fait perdre à son consommateur le savoir du service dont il était auparavant détenteur. C'est la raison pour laquelle les hypomnématas sont toujours vécus en tant qu'ils permettent ces processus de dissociation, d'abord comme des ennemis du savoir. Que ce savoir, c'est le savoir-faire, le savoir du profane ou le savoir du lettré. Le lettré vit lui aussi dans un milieu symbolique grammatisé. Mais chez le lettré, cette grammatisation, au lieu de court-circuiter les circuits de transindividuation, rallonge et étend et approfondit ces circuits. Et donc produit de la super-individuation, ce que j'appellerais à la fois de l'idiomatisation, chez les poètes par exemple, ou chez les artistes, et de l'anamnèse en vue de produire des significations nouvelles. Et chez les lettrés, ces significations sont soumises à des règles de réécriture, c'est-à-dire de critique entre des pairs. L'anamnèse est donc un approfondissement des circuits de transindividuation qui passent par l'hypomnèse, là où les courts-circuits sophistiques sont des raccourcissements, voire des éliminations des processus de transindividuation. Le lettré est appareillé hypomnésiquement, en sorte d'être un producteur de circuits longs de transindividuation. Le lettré au sens étroit, c'est-à-dire au sens grec, produit une individuation psychique qui a pour ce caractère très remarquable que l'individuation psychique coïncide terme à terme, et si je puis dire à la lettre, avec l'individuation collective. Lorsque Riemann, par exemple, critique la géométrie d'Euclide, sa critique, qui est une activité psychique de Riemann, coïncide immédiatement avec un nouveau point de la géométrie qu'on va appeler la géométrie de Riemann. Et c'est vrai de tous les lettrés. Le lettré a pour caractéristique de faire coïncider son activité psychique avec une activité collective de ce que Husserl appelle un « nous transcendantal ». Cela étant, en Grèce, le citoyen, en général, est lettré, et pas simplement ce qu'on appelle le clerc, pas simplement le scribe. Ce qui caractérise précisément la cité grecque, c'est qu'il n'y a plus de scribe. C'est que tous les citoyens sont des lettrés, en droit sinon en fait, et c'est la raison pour laquelle tous doivent passer par cette machine de littération et d'intériorisation du savoir qu'on appelle l'école, ou bien l'académie, ou bien le lycée, etc. Ce monde lettré produit, y compris en tant que monde de la citoyenneté, des idéalités qui ne sont pas simplement des idéalités géométriques ou savantes, mais des idéalités telles que la justice, par exemple, qui va organiser les rapports entre les individus. Et par conséquent, une des grandes questions fondamentales de ce que c'est que la politique, et en particulier la démocratie, c'est comment le lettré transfère son savoir vers ce que j'appelle, en jouant un petit peu, évidemment, en faisant un peu un jeu de mots, un ostium du peuple. Car la grammatisation, à partir du moment où, en particulier, l'imprimerie se développe, va se répandre dans la société, au niveau de la roture, notamment pour mettre en place, par exemple, une comptabilité, etc., mais aussi comme un projet d'éducation généralisée, refondant une démocratie qu'on va appeler la démocratie industrielle. Et c'est tout le projet de Jules Ferry qui va se développer à travers cela. Maintenant, aujourd'hui, quelle est la question qui se pose à nous ? La grammatisation est devenue analogique et numérique, et disons plus généralement industrielle. Elle est aussi d'ailleurs biotechnologique et nanotechnologique. Le microscope à effet tunnel, c'est un système de grammatisation des atomes. Or, aujourd'hui, elle met massivement en œuvre des courts-circuits du type de ce dont je parlais tout à l'heure. Dans quelle mesure un lettré numérique pourrait-il apparaître qui permettrait de reconstituer des longs circuits par les technologies numériques? C'est ça la question qui se pose à nous aujourd'hui, je le crois. Je vais maintenant aller vers ma conclusion en vous disant ce que la deuxième partie sera beaucoup plus courte, ce qui est à mon sens le milieu numérique. Et je dirais que ce milieu numérique, je crois qu'il est ce qui nous reconduit vers une question qui surgit en ce moment de façon très diverse et qui est la question de ce que j'appellerais l'amateur. Entre le savant et le profane, il y a les amateurs, y compris l'honnête homme, par exemple, du XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, il y a des amateurs tels qu'ils apparaissent dans le monde numérique en se constituant, par exemple, à travers Wikipédia, comme des communautés savantes amateurs. J'insiste sur le fait que l'amateur, c'est un mot qui vient de amor, qui veut dire aimer, et que l'amateur, c'est une économie binale, c'est une économie du désir. Et j'ajouterais que l'osium, tel que le décrit Michel Foucault, c'est aussi une économie du désir. C'est-à-dire, c'est une activité de sublimation du désir qui cherche à se transformer en idéalité collective, c'est-à-dire à constituer des mondes lettrés. La question qui se pose donc à nous, c'est comment se déploie aujourd'hui une nouvelle activité de sublimation qui concerne évidemment ce qu'on appelle les lettrés et les savants au sens strict, et les artistes aussi, etc., mais qui concerne aujourd'hui toute la citoyenneté. Et comment nous, les lettrés ou ceux qui travaillons avec les lettrés à la BPI, au Centre Pompidou, à l'IRI ou ailleurs, nous sommes en responsabilité par rapport à cette nouveauté, qui est un enjeu industriel fondamental. Alors, avant de développer cela, je dirais que nous avons tous fait une expérience, en tout cas moi je l'ai faite plusieurs fois dans ma vie, de perdre un objet porteur de mémoire. J'ai un problème, par exemple, en ce moment, mon téléphone portable a un clavier dont les touches ne marchent plus. Je ne peux plus accéder à mon agenda, je ne peux plus accéder à ma liste de téléphone. Et j'ai vraiment un gros problème. Qu'est-ce qui m'arrive avec ce problème? Eh bien, il m'arrive que je constate que Platon avait raison. En extériorisant la mémoire, je la perds. Elle n'est plus dans mon cerveau, elle est dans l'objet. Et cet objet supporte la partie la plus précieuse de la mémoire humaine. Ces objets, qui forment un système d'objets, comme l'avait appelé Baudrillard, que je salue en passant, ils s'y forment l'ensemble des œuvres de l'esprit. Toutes les œuvres de l'esprit sont des objets porteurs de mémoire que l'on peut perdre, que l'on peut détruire au canon, comme les talibans l'ont fait récemment avec les Bouddhas, ou comme les Américains l'ont fait avec le musée de Bagdad. Bon. Et comme le faisait aussi à Persépolis, enfin comme le faisaient tous les conquérants à une époque qui commençaient par détruire tous les symboles existants pour pouvoir imposer. Jusqu'à ce qu'Alexandre arrive en disant « Non, moi je ne détruirai pas les symboles. Je vais faire une religion syncrétique entre la religion d'Isis et d'Osiris et la religion de Hadès et de Perséphone. » Ce qui est très très important. C'est une logique, là je n'ai pas le temps d'en parler, mais une logique extraordinaire d'un impérialisme intelligent. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert ça avec Christian Jacob à Alexandrie, lorsque nous avons visité la nécropole d'Alexandrie. Qu'est-ce que c'est que cette extériorisation? C'est ce qui permet d'organiser la pensée en la confiant au dehors. C'est ce qui permet de voir avec ses mains, de penser avec ses doigts en écrivant. Mais c'est aussi ce qui peut donc être perdu. La mémoire ne cesse de s'élargir aujourd'hui techniquement et technologiquement, d'étendre le savoir des hommes et leur pouvoir, mais dans le même temps, elle leur échappe et elle les dépasse. Elle met en question leurs organisations psychiques aussi bien que sociales, elle les bouleverse profondément. Aujourd'hui, la mémoire est devenue l'élément majeur du développement industriel et technologique dans toutes les technologies. Et les objets quotidiens sont de plus en plus des supports de mémoire objective, c'est-à-dire aussi de savoir. Or, ces savoirs technologiques, objectivés sous la forme d'appareils, engendrent aussi et surtout, pour le moment, une perte de savoir. Au moment même où l'on parle de société de savoir, d'industrie de la connaissance, de capitalisme cognitif ou culturel, etc. Nous sommes en permanence en relation avec des appareils mnémotechnologiques de toutes sortes, télévision, téléphone, ordinateur, guidage GPS, etc. Et ça va pas cesser de se développer avec les objets communicants. Ces technologies cognitives auxquelles nous confions une part toujours plus importante de notre mémoire nous font aussi perdre de plus en plus de savoir. Il faut se demander si le développement industriel et massif des mnémotechnologies ne constitue pas une perte structurelle de mémoire ou bien un déplacement de cette mémoire qui nécessite un réagencement. C'est la très vieille question de la philosophie dont je parlais tout à l'heure, mais qui se pose dans des termes tout à fait nouveaux, parce que la grammatisation s'étend plus simplement maintenant aux activités cognitives fondamentales, mais par exemple aux activités de conduite automobile, qui font que progressivement nous désapprenons à conduire, et il y a des projets de développement d'automobiles qui se conduisent entièrement toutes seules, et qui peuvent nous amener à penser que nous pourrions finir par perdre tous nos savoirs, et donc toutes nos saveurs, parce que être humain, c'est savoir quelque chose. En réalité, je crois que poser les questions ainsi, c'est les dramatiser d'une manière rhétorique, nécessaire. Ça n'est pas du tout une question absurde. C'était la théorie de Marx sur la perte du savoir ouvrier par le prolétaire. Le savoir est passé dans la machine. C'est aussi ce que j'ai développé moi-même sur le consommateur qui perd ses savoir-vivre parce que les services se substituent à lui progressivement, au point que, par exemple, il ne sait plus élever ses enfants tout seul ou qu'il les confie parfois même à la télévision. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce processus est en train d'entrer dans une nouvelle phase dont, je dirais, pour terminer, j'arrive vraiment à ma fin, qu'elle pourrait être salvatrice. Et c'est le temps nouveau des amateurs. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, les industries culturelles et plus généralement les industries de la mémoire tendent à produire de la dissociation du symbolique, c'est-à-dire à imposer en réalité dans les mondes symboliques, dont les mondes lettrés sont des cas très extrémisés, très symbolisants, un modèle qui est celui de la division industrielle du travail qui s'est imposée au début du 19e siècle dans le monde industriel, à savoir producteur d'un côté, consommateur de l'autre. Et c'est un modèle qui produit de la perte de participation et donc de la désindividuation, donc de la perte d'anamnèse. C'est ce qui a été produit par ce que j'ai appelé un tournant machinique de l'organologie des artefacts, qui fait que, par exemple, on peut écouter de la musique sans savoir la jouer, et que du coup, on entend la musique de moins en moins bien, parce qu'on entend quand même beaucoup mieux la musique quand on sait la jouer, la lire, etc. Tout ce processus, qui est une déqualification du destinataire, est dramatique. Il produit aujourd'hui une très profonde démotivation dans tous les domaines, mais il est en train de se renverser, je le crois. Enfin, plus exactement, je crois qu'il devient possible de le renverser. Il devient possible de le renverser parce que est en train d'apparaître ce que j'appelle un nouveau milieu technique associé. Le milieu numérique est un milieu associatif et non pas dissociatif. Dans le milieu numérique tel que, en particulier, il se déploie à travers Internet, il est évident que le destinataire, ceux qui reçoivent des messages, des énoncés, des images, sont en position originelle de destinateur, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une position de symbolisation. Et que du coup, on voit que ce milieu est ce qui peut reconstituer véritablement un espace des amateurs, tel que ils se mettent à reproduire de la trans-individuation avec des circuits longs. Ces circuits longs supposent évidemment de nouveaux appareillages, ce que j'appelle des appareillages critiques. À l'Institut de Recherche et d'Innovation, c'est là-dessus que nous travaillons essentiellement, à développer des appareils critiques numériques qui permettent de reconstituer des longs circuits de trans-individuation. Sachant que Internet peut évidemment produire des courts-circuits encore plus courts. Internet est un milieu technique associé qui produit potentiellement des circuits de trans-individuation très longs, mais il est aussi utilisé comme une machine extraordinaire de contrôle, une technologie de contrôle, pour reprendre ce que je disais au début, par exemple par Amazon.com, en faisant du profilage utilisateur, qui consiste à enfermer le lecteur dans un comportement standardisé, calculable par le gestionnaire de stock de livres, et qui va permettre d'optimiser ses stocks. Donc qui va remettre la logique de dissociation en œuvre en utilisant cette technologie d'association. Je pense que nous, quand je dis nous, je me permets de dire nous à la place du groupe des mondes lettrés, de l'INHA, de la BPI, du Centre Georges Pompidou, et nous qui sommes des gens qui travaillons dans la question du symbolique, et du symbolique savant en particulier, et qui cherchons à articuler le savant sur le profane, parce que c'est ça la République, c'est ça l'espace politique, c'est ça la démocratie. Nous avons à concevoir de nouveaux espaces critiques en développant des appareils critiques, des appareillages critiques, qui transforme ces technologies de transindividuation qui sont encore souvent très sommaires et qui posent, nous le savons bien, d'immenses problèmes, fameux débat qu'il y a en permanence sur Wikipédia, qui transforme ces technologies en une chance plutôt qu'en une catastrophe. Un milieu associé est toujours potentiellement dissociant. Il suffit d'être un, un, un rhéteur habile, voire un dictateur, et de savoir manipuler le pouvoir symbolique, l'efficacité symbolique, pour renverser ce pouvoir en détruisant le symbolique et en canalisant complètement le désir de ceux qui sont dans ce milieu symbolique. Je pense que le travail des lettrés, et plus généralement du monde savant, c'est de constituer des instances critiques. Le lettré, c'est celui qui critique. C'est-à-dire, c'est celui qui profite de la grammatisation pour catégoriser, pour produire des catégories qui vont être soumises à la critique entre pairs selon des règles de réécriture rigoureuses et exposées en permanence à la discussion. La grande question que pose Wikipédia, par exemple, c'est qu'on n'a pas de traçabilité de ce qui administre aujourd'hui l'évolution des notices. Or, cette traçabilité, il est tout à fait possible de la mettre en œuvre. Le problème, c'est que mettre en œuvre cette traçabilité avec des technologies adaptées, c'est de la recherche et du développement, c'est beaucoup de moyens, et qu'aujourd'hui, toutes les technologies qui sont mises en œuvre le sont dans des programmes de recherche qui sont essentiellement mis au service du négocium. Parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Ce sont les mondes solvables, et en général, les mondes lettrés ne sont pas solvables. Il y a donc une question qui se pose à nous, qui est de solvabiliser, si je puis dire, l'intérêt des mondes lettrés, et en expliquant que nous avons, nous, les gens qui travaillons dans les mondes lettrés ou avec les mondes lettrés, nous avons à produire des appareillages critiques qui permettent de produire ces circuits de transindividuation. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on ait une discussion assez longue. Je dirais juste en dernier mot, je recommande la lecture d'un livre, je voulais le commenter mais j'ai pas le temps, extrêmement intéressant, d'un philosophe finlandais qui est peu connu en France, j'ai déjà parlé à Marseille où tu étais, Geneviève, qui s'appelle Pekka Himanen, et qui est un garçon, jeune philosophe de l'université d'Helsinki, qui travaille maintenant avec Manuel Castells aux États-Unis aussi, qui est il est tout jeune, il a écrit un livre qui s'appelle L'éthique hacker et l'esprit des sociétés de l'information, qui est un homme proche de Linus Torvalds, qui a mis au point le système Linux, est proche de tout ce qu'on appellera le milieu des Creative Commons, de Open Source et tous ces mondes-là. Et il défend l'idée que le hacker, c'est le nouveau lettré. Bizarrement. Et le hacker, pour lui, c'est pas un informaticien, c'est quelqu'un qui est absolument passionné par ce qu'il fait. Et il montre comment des communautés hackers se constituent aujourd'hui. Et il dit que ces communautés hackers, avec l'esprit hacker, c'est ce qui vient se substituer aujourd'hui à l'esprit, à l'éthique, enfin, l'éthique hacker, c'est ce qui vient se substituer à l'éthique protestante qui était à l'origine du capitalisme, selon Max Weber. C'est dans cet esprit-là, si je puis dire, que je vous ai parlé. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.